I told you not to move, and I won't tell you again. We have nothing to sell. Go back to where you came from.
Hey, boss!
Ah! Ils vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit. T'as pas le dos.
On est all to vous.
En 25 ans d'émission, je n'ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
Una are to vous. Dark away now.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
S'emparer d'un genre, abandonner le mythe, sans trahir une réalité historique et faire à l'arrivée un vrai grand film personnel. Il l'a fait, ils l'ont fait et ils sont avec nous ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Deux frères à cheval dans un paysage de western, discutant beaucoup et tuant énormément. Un voyage physique et symbolique initiatique de la violence à la prise de conscience. Bonjour Jacques Audiard.
Bonjour Christine.
Les Frères Sisters, c'est votre huitième film et le premier tourné en anglais, adapté d'un livre de Patrick De Witt, oui, adapté à vos mesures, avec votre voisin ce matin. Bonjour Thomas Bidguin.
Bonjour Christine.
Quatre mains pour transformer ce livre en un film de Jacques Audiard. Belle performance et un casting 5 étoiles à côté de Joachim Phoenix, John Cirelli, initiateur de ce film avec sa femme productrice. Nous l'avons rencontré cette semaine à Paris. Les Frères Sisters sort mercredi prochain. Enfin, les nouveaux films de ce deuxième mercredi de septembre avec des forêts, des fantômes, le pape, un écrivain russe ou un flic largué.
Siamo agli ultimi tre premi di questa 75esima mostra. Leone d'argento per la miglior regia. Presidente, lei la parola.
It goes to Jacques Audiard for Sister Brothers.
Oui, Lion d'argent, prix de la mise en scène donc à la dernière Mostra de Venise pour vous, Jacques Audiard et les Frères Sisters. Vous n'étiez pas là, vous étiez à Toronto, vous avez envoyé un message vidéo dans lequel vous dites « Ça me rassure pendant un moment, cette récompense ». Alors pendant combien de temps? 5 minutes?
J'ai peur de blesser les gens, mais c'est vrai que comment ça a un effet pour moi. Ça me rassure un mois.
Mais ça vous rassure sur quoi?
Mais sur le, c'est difficile à dire. On ne sait jamais exactement ce qu'on fait, voyons.
Ça vous rassure sur le film ou sur votre talent?
C'est bien, vous facilitez la tâche. Non, sur le film, ouais. C'est mon talent n'a strictement, je sais pas, on sait pas si on a du talent d'abord. Le talent de quoi? On a du talent pour un film, peut-être, je sais pas. Dans ce cas-là, ça me rassurait, ça me dit, tiens, là, à ce moment-là, t'as pas été quelqu'un l'a vu et l'a reconnu, voilà. Et on ne reste pas tout seul à poil devant Dieu. Et
donc rien ne peut vous rassurer jamais.
Si vous.
Allez, les Frères Sisters, la mythologie de l'Ouest américain reconstituée en Espagne et en Roumanie, tournée en anglais avec des acteurs américains, des sacrées pointures, donc Joachim Phoenix, John Cirelli, Jack Gyllenhaal et Riz Ahmed. Vous avez pris peur à un moment de cette énormité en fait, le western, le roman, tous ces acteurs tournés en anglais.
La difficulté pour moi, c'est que quand on dit western. Ça, c'est typiquement mon cerveau, ça. Je reconnais cette fréquence.
Celui de Thomas Bidguin, ouais.
Et ça peut être un tournage aussi, ça peut être un truc pareil un avion qui passe.
Ce que je voulais vous dire, c'est que comment le Sister Brothers, c'est bien sûr un western, mais ouais. Pour moi, qui vais le réaliser, c'est un film d'époque. Et ce qui dit film d'époque dit les costumes, tout ce bazar-là, et que en plus comme on était en décor naturel, ça supposait d'amener beaucoup de choses. Il y avait un gros travail de régie. Ça, c'était lourd, la grosse machine. Sinon, les acteurs, c'était très bien.
Vous savez, vous êtes attendu de film en film. Est-ce que ça met la pression, disant, on essaie de se surpasser à chaque fois?
C'est curieux, ça, quand même.
Ben oui, moi, je m'imagine, quand on est metteur en scène, on a des films qui plaisent, on se dit, qu'est-ce que je vais faire la prochaine
mais
fois?
Je sais pas quelle position avoir, celui du faux modeste, ou, ouais, c'est compliqué. Je pense pas à ça, Christine. J'ai une telle foi dans le cinéma que je pense au projet, et le projet qui va, comment avoir une idée pour un projet, là, en l'occurrence, c'est la première fois de ma vie que l'idée ne vient pas de moi, que ce soit l'adaptation ou l'original. Ouais. Et donc ça, c'était formidable. Mais comment quand on a une idée comme ça, il faut savoir qu'elle va, il faut qu'elle ait suffisamment de consistance pour nous tenir 2 ans, 3 ans. Oui. C'est ça la chose. Et ça, c'est une difficulté.
Voilà. Et puis la rupture avec le
cinéma. C'est ça, comment on ne pense pas si on nous attend ou pas.
Thomas Bigin.
On pense au cinéma.
Oui, et puis on va chercher quelque chose qui brille à l'intérieur du roman. On sait que le roman nous a plu, on va essayer de... Et c'est en creusant qu'on va finir par trouver où sont les thèmes, comment est-ce qu'on va... Le chemin se fait en marchant. On ne sait pas au début, voilà. Il va falloir ce temps-là pour creuser, pour savoir où va être le film, ce qui va devenir, et puis...
Et il n'y a que nous qui pouvons avoir les idées, en plus.
Là-dessus. Oui.
C'est ça. Ça a l'air un peu bête.
Oui.
C'est pas le producteur, il n'est pas là pour vous donner des idées le matin. Non. Il est là pour éventuellement chiffrer vos idées.
Ou un peu d'argent.
Les frères Sisters, adaptés donc de ce livre de Patrick Devitt, Charlie et Ellie sont les frères Sisters, qui n'éprouve aucun état d'âme à tuer, c'est leur métier. Charlie, le cadet, et Phoenix est né pour ça. Ellie, Rayly, rêve lui d'une vie normale. Ils ont été engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme, un chercheur d'or de l'Oregon à la Californie. Cet homme qui aurait découvert une substance qui révèle la présence de l'or dans l'eau. Il est suivi et espionné par un détective. 4 hommes sur la route, reliés par un savant montage, on y reviendra. Le projet est né grâce à une productrice tenace, elle s'appelle Alison Dickey, la femme de John C. Reilly, votre interprète, et voici, traduit et interprété par Harold Manning.
Wondering about family? You remember how Paul was with Mom?
Yes, Charlie, I remember.
Nice to think. You're not scared to reproduce yourself? You do realize that our father was stark raving mad and we got his foul blood in our veins?
Our father drank, Charlie.
Touché. That was his gift to us. That blood. That's why we're good at what we do.
Bonjour, John.
Bonjour.
Vous deviez bien connaître le cinéma de Jacques Audiard pour avoir l'idée de lui proposer ce livre. Vous connaissiez bien ses films?
Alors, je les connaissais très bien, mais comme il faut rendre à César, je dois dire que le mérite revient à mon épouse, Alison Dickey, qui a coproduit ce film. Elle avait découvert le roman en rencontrant son auteur, Patrick Devitt, sur un film qui s'appelle Terry. Elle m'a donné le manuscrit en me disant « Il faut que tu lises ça ». Moi, je lis pas beaucoup. Je lis tellement de scénarios, quoi. Je lis très peu de romans. Bref, je l'ai adoré. Et c'est Alison qui a eu l'idée de contacter Jacques. Elle suivait sa carrière film après film depuis ses débuts. Et dès qu'un nouveau film d'Audiard sortait, elle me disait « Il faut que tu ailles voir ça !» Et une fois que nous avons acquis les droits du roman, on cherchait un très bon réalisateur et elle a dit « Mais pourquoi pas Jacques Audiard ?» Et c'est donc Alison qui a eu l'idée. On s'est rencontré avec Jacques à Toronto. C'était comme un de ces sommets diplomatiques pendant la guerre froide, la délégation française et la délégation américaine qui se rencontrent au Canada. Et nous avons proposé de faire affaire, comme des mafieux, à partir du roman. Jacques semblait un peu sur ses gardes. Il faut se méfier des étrangers qui débarquent avec des cadeaux. Mais après avoir lu le roman, il est devenu très fan de cette histoire et on s'est mis à chercher les moyens d'en faire un film.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans son cinéma, sa touche particulière?
Ce que j'apprécie beaucoup chez Jacques en tant que réalisateur, parce que en termes de cinéma, je ne sais pas trop, mais en tant que réalisateur, il a une vision particulièrement pénétrante des personnages et des gens, comme une radiographie. Et quoi que vous lui montriez de vous-même, quoi que vous espériez qu'il perçoive de vous, il voit clair en vous, immédiatement. Et ça doit être un véritable fardeau en ce monde de voir la vérité des gens comme ça. Mais c'est une qualité exceptionnelle pour un metteur en scène. Je savais que quoi que je propose dans mon jeu, Jacques y trouverait une justesse qu'il porterait à l'écran. Et la justesse, c'est essentiel. C'est ce que l'on recherche au cinéma, la justesse. Et dans ses films, Jacques me touche beaucoup. Il y a un côté très physique dans ses films. Il y a de la tension, de la dynamique. Il arrive toujours à vous surprendre, à déjouer vos attentes. Et il a la science du rythme. Jacques, il a toute une palette de talents en tant que cinéaste. Il vient de l'écriture, du montage, il a grandi dans une famille qui faisait du cinéma, et c'est donc quelqu'un qui comprend toutes les facettes de la fabrication d'un film. Ce roman se déroule au Far West, il a tous les clichés du western, les flingues, les chevaux, le whisky, Mais la vérité, c'est que Jacques en a fait un film personnel, et pas seulement intimiste. Et c'était notre préoccupation dès le départ. On lui a dit, Jacques, si tu aimes ce roman autant que nous, alors, s'il te plaît, fais-en un film de Jacques Audiard.
Joaquin Phoenix aime se définir comme un acteur non professionnel. C'est perturbant pour son partenaire?
Bah déjà, c'est faux. C'est quelqu'un de très professionnel, de très ponctuel, il sait son texte. En fait, Joaquin, il est pour moi le comble de l'acteur, tellement il est impliqué. Et puis par son intégrité de comédien. Il est prêt à tout, au sens propre, jusqu'à se faire du mal ou avoir des conversations complexes sur le plateau. Pour lui, ça vaut toujours le coup d'essayer de donner le meilleur de lui-même.
Il vous a surpris?
Si Joaquin m'a surpris, ah mais constamment. Joaquin, c'est ça sa qualité première, je trouve. Si vous le regardez dans The Master, il est comme une bête sauvage dans ce film. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? C'est très difficile de prévoir ce que Joaquin va faire à l'écran et dans la vie.
The same on this set, et pareil sur ce tournage.
Ah oui, je trouve, oui.
Vous avez un exemple à nous donner?
J'ai appris que chaque fois que l'on fait une suggestion, il fait juste le contraire. Alors il faut faire très attention à ce que vous lui suggérez.
Même s'il ne s'agit pas ici d'un vrai western, c'est important quand même pour un acteur américain de jouer dans un western, parce qu'il y a tellement d'exemples dans le passé d'être à cheval, de revisiter ce genre, ce cinéma-là.
Si c'est important pour moi de jouer dans un western parce que ça fait partie de la culture américaine? En fait, ça ne veut rien dire, ça, pour moi. En vérité, pour moi, la culture du western s'est beaucoup trompée. Et c'est la cause de bien des problèmes dans la mentalité américaine. Le mâle blanc triomphant sur son cheval immaculé qui soumet les Indiens et tous les autres avec, ça a fait beaucoup de dégâts dans notre imaginaire collectif. Et ce qu'on a essayé de faire ici, c'est de revenir à la réalité de l'époque, d'abandonner le mythe, de ne pas recopier d'autres films, de se baser sur des faits historiques et sur ce superbe roman qui lui-même s'inspire de la réalité de l'époque. Le milieu du 19e, c'est une époque de grande transformation, c'est très intéressant pour l'Ouest américain. L'Amérique se forgeait une identité nouvelle en essayant de s'extirper de son passé violent, de tous ses génocides. On essayait de créer une société vivable pour avancer. Et je trouve qu'on en est au même point aujourd'hui.
C'est donc important d'avoir un point de vue européen sur l'histoire.
C'est devenu très important pour nous. Notre premier souci, quand on a rencontré Jacques, c'était d'avoir un grand metteur en scène. Nous voulions faire de ce grand roman un grand film. Mais très vite, il est apparu que ce n'était pas une idée iconoclaste, c'était une idée géniale. Parce que le Far West de l'époque, c'était un melting pot. C'était un mélange de peuples, une société multiculturelle. C'était la tour de Babel, on y parlait toutes les langues. Alors, un point de vue européen, c'était tout à fait bienvenu.
Alors, qu'est-ce que Diarra a apporté de particulier à cette histoire, à ce roman?
Il faut demander à Jacques ce qu'il a apporté en détail. Mais prenez par exemple le choix de l'interprète pour le rôle de Mayfield, cette femme qui, dans le film, gouverne la ville. Dans le roman, c'est un vieil homme, un vieux blanc avec ses roflaquettes.
C'est lui qui a eu l'idée d'en faire une femme.
Et oui, bien sûr. Et il a amené plein d'autres idées, mais pour vous expliquer comment ça s'est passé, Jacques a dit, voilà, j'ai envie que ce soit une actrice, ce sera Rebecca. Mais Jacques, le personnage est un homme. Ah oui, mais c'est chiant. On a déjà vu ça. Le vieux de service qui dirige la ville, on s'en fout. On a vu ça mille fois. Quand les mecs, ils arrivent dans cette ville, il faut que tout soit bizarre, il faut que ce soit quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Alors Rebecca est arrivée, et Rebecca est une comédienne transgenre. Et là, cette idée, elle nous a paru révolutionnaire. L'idée de Jacques, mais bien sûr. Ça aurait été complètement chiant autrement. Et là, c'était l'enthousiasme. Ça apportait une grande richesse à l'histoire. Et ce n'était pas un choix arbitraire de la part de Jacques. Jacques avait trouvé une photo d'époque d'une femme qui portait une moustache et qui était la patronne d'un casino. Et bim, voilà, Mayfield en femme. Et pourquoi pas? C'est le nom de sa boîte de Jacques, vous savez, Why Not? Pourquoi pas? On a beaucoup entendu Why Not sur ce tournage.
Il a tout dit là, John C. Reilly.
Ouais, moi je trouve qu'il parle vraiment très très bien.
Il est intelligent, il a une vraie vision globale du projet.
C'est
on a entendu la réaction de cet acteur américain sur la mythologie du western et ses effets donc sur la société actuelle américaine. Mais il faut quand même, quoi qu'on en pense, il faut quand même s'y coltiner au western. Faut faire. Il y a les paysages, il y a les chevaux.
Voilà,
il y a
attention, parce que j'ai des répliques toutes faites.
C'est vrai, c'est quoi?
Les paysages.
Ouais.
Je suis pas jardinier, je suis réalisateur.
Ouais.
Les chevaux.
Les chevaux.
Les chevaux. La prochaine fois, je prendrai des poneys.
Les scènes de.
Allez,
les scènes de tir.
Mais quand on a, tout ça, c'est
non,
pas.
Non, mais tout ça, non, ça existe.
Ce que je veux dire, c'est comment le Tom et moi, très très vite, on est arrivés. Tout simplement parce qu'on a décrypté le DeWitt. Et en fait, ce que propose DeWitt, c'est un conte. Donc ça va être un imaginaire de conte. Et puis, comment ces deux personnages, ces deux qui sont usés jusqu'à la garde, ces vieux garçons qui parlent, c'est des enfants dans le paysage. Cette conversation, ils l'ont depuis qu'ils ont 8 ans et demi. Ouais. Donc, c'est évidemment un conte. Donc, ça va être comment. La question de la mise en image, c'était de comment mettre en image un conte. Et nous, comment on avait une référence. Bon, c'est un peu une tarte à la crème, mais c'était pas un western, c'était la nuit du chasseur.
Bien sûr, la nuit du chasseur.
Et je trouve que si un film proche d'une autre, c'est celui-là.
C'est votre premier choc au cinéma, Thomas Bilguin.
La nuit du chasseur, oui, absolument. Mais moi, j'ai l'impression que c'est notre référence pour à peu près tous les films.
Ah oui, à chaque fois,
pour te rouiller d'os, c'est vrai, il y a toujours un peu. Mais effectivement,
je crois que dans l'imagerie, si vous voyez par exemple le fait que la représentation de la violence dans des cols, toutes ces bêtises là, c'est vraiment comme dans une chose comme une imagerie où il y a des grandes flammes au revolver, les visages qui s'éclairent, c'est du dessin.
La première scène, on la racontera pas, mais c'est ça, c'est-à-dire
celle qui a fixé. On a eu du mal à la trouver, mais une fois qu'on l'a trouvée, après comment le conte se dépliait un peu de lui-même.
C'est quoi votre travail à tous les deux? Vous aimez bien avoir des regards critiques sur votre travail, Jacques Audiard. Et lui est un vrai regard critique, Thomas Bilguin.
Je sais pas si
c'est pas le regard, moi je suis à l'intérieur.
Oui, il est à l'intérieur. J'aime pas qu'il ait trop de recul
Non, non, pas trop de recul.
Non, on travaille. Alors, effectivement, on se relie. C'est du quatre mains. Donc, on passe chacun sur le travail.
Notre collaboration aboutit quand même à une chose où, à un moment donné, on ne sait plus qui a écrit quoi. Donc, mais en revanche, à l'arrivée, c'est un scénario.
Vous l'avez lu combien de fois le roman?
Ou pas mal de fois, parce qu'on a lu la première fois en français. Moi, je l'ai lu en français, je crois, la première fois. Et puis ensuite, je l'ai lu en anglais.
Bonne traduction, là, il faut le dire. Il est très bien traduit.
Chez Babel, on absolument.
C'est un très bon livre.
C'est un très bon livre qu'il faut lire, si vous permettez, après avoir vu le film.
Ça, je ne peux pas vous dire.
Je le pense.
Ah bon, peut-être.
Oui, je pense.
Ou pendant. Mais
non, surtout pas.
Non, en tout cas, non, on l'a lu pas énormément. Moi, je pense qu'à un moment, surtout.
Moi, j'ai beaucoup lu.
On l'a beaucoup lu. Après, et ça reste un frigo, un truc dans lequel on peut toujours aller chercher des choses. Et c'est vrai que quand même, au moment, il y a plusieurs temps dans l'adaptation. Un premier temps, on va adapter le bouquin, puis ensuite, on va adapter le scénario qu'on avait tiré du bouquin. Donc, petit à petit, on va quand même s'en détacher, mais ça reste une source, même pendant le tournage.
Je crois que dans les étapes importantes du scénario, alors deux ou trois, mais disons que la plus importante qui vient en dernier, c'est celle où on s'est totalement détaché de la construction, où là, tout à coup, deux véritables protagonistes apparaissent, et que tout à coup, il y a un dynamisme qui envahit l'histoire, qui n'y avait pas dans les versions précédentes. Et ça, c'est parce que à un moment donné, on lui a sauté dessus sur le bouquin.
À partir de quel moment vous devinez, vous savez que c'est votre film, ce sont vos thèmes?
Je pense, moi, en tout cas, c'était ce moment-ci, quand tout à coup le scénario se satellise par rapport
au roman. Qu'on enlève là les références au livre, la structure du livre.
Et qu'il y a deux nouveaux personnages qui apparaissent, personnages qui deviennent véritablement presque égalitaires avec les autres. Et ça a été le problème de Warm. Mais après, ça devient un autre problème, c'est qu'on avait les deux frères, on avait Warm et Maurice. Et les personnages de Warm et Maurice étaient tellement intéressants que ça commençait à devenir...
Il fallait équilibrer les deux couples.
On écoute juste un petit extrait avec ses deux frères, donc Phoenix et John C. Reilly, c'est la scène de la gifle. Oui, ça a du sens.
Hey, brother! What are you doing here? Hey, I got some great fucking news. I know where they are. What do you say to that? Do you hear me?
Yes.
You don't even care?
What's wrong with you?
You remember what happened last night?
Yes. And?
You remember that you hit me?
I hit you? I hit you?
Stop pretending and spare me the I don't remember routine. You hit me in public, Charlie. So as sure as you're looking at me right now, I'm leaving.
No, wait. All right, what do you want? This is about slapping each other in public. After I slap you, you slap me back, Raven. So go ahead, hit me. Jesus fucking Christ. What is your goddamn problem? I slapped you and whacked you in the head with a fucking shovel.
You do remember.
Oui, Thomas Bilguin, oui.
Non, non, c'est quand, effectivement, on pensait que c'était la première fois qu'on allait écrire un western, puis finalement, oui. Ce n'est pas, peut-être pas tant un western que ça. Mm. En revanche, c'est la première fois qu'on a écrit une comédie, je crois.
Donc, c'est vrai. Non, c'est vrai.
Quand John Cirelli dit « Audiard voit la vérité des gens » et ça doit être un fardeau, c'est un fardeau pour vous ?
Je pense que John parle de je pense que sur un plateau, je dois avoir une attention particulière et que je suis obligé de le prendre en compte parce que je suis très inattentif normalement. Donc je crois que non, c'est vrai. Non, ouais. Je pense que sur le plateau, je dois avoir une chose. Vous savez, j'ai vu des images de making of comme ça, et je pense que je ne me ressemble pas. Je crois que je suis fou allié sur un plateau.
C'est-à-dire comment?
Je suis hystérique.
Ah oui?
Je suis fou.
Non, mais je vois. Thomas Bilguin, vous confirmez?
Je vois, je saisis.
Oui, je ne vais pas beaucoup sur le plateau, hein, justement pour m'éviter cette vision-là.
plus sur celui-là que sur les autres.
Non, pareil. Non, mais je pense que je crois que le fait d'être, qu'on désigne cet espace, voilà, où on va jouer, on va mettre de la lumière. Je crois que dans cet endroit-là, je dois avoir une attention particulière à l'actrice ou l'acteur, et c'est peut-être de ça dont parle John C.
Ici et là, vous avez dit que les acteurs américains vous épataient parce qu'ils travaillaient beaucoup, donc. Contre-champ sur les acteurs français, ils travaillent.
Non, c'est différent. Il n'y a pas de, comment on va pas faire le
c'est il n'y a pas de comparaison à faire.
C'est pas concurrentiel. Mais... On va partir déjà du postulat que la culture américaine, le cinéma fait partie de la culture américaine. La culture américaine véritablement naît, ou le cinéma naît dans la culture américaine. Donc ils ont cette culture-là. Et ils font un distinguo très, pour acteurs de cinéma, c'est un métier qui est distinct de comédien ou des choses. Et donc ils ont développé un savoir de l'image, un savoir de la caméra, un savoir du rythme, du phrasé, ils ont ça. Donc ils arrivent avec ça. Et quand après c'est l'expérience personnelle, c'est quand ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Quand vous allez avoir 2 semaines sur votre tournage, ils auront travaillé énormément en amont. Et quand ça arrive, c'est tout de suite, c'est extraordinairement présent, c'est
pas
constitué.
Pas trop travaillé justement.
Alors ça serait
ça pas un problème.
Mais comment moi ce que j'ai adoré, c'est que chacun m'a fait une ou des propositions, et après j'ai l'impression d'être à Intermarché. Je dis non, Riz, pas comme ça, tu ça, voilà. Non, mais c'est un gros problème de riche, vous voyez, ça, là.
Mais c'est cette idée qu'ils sont propriétaires du rôle.
Ils sont propriétaires du rôle, voilà. Et donc. Que ça, je pense, c'est assez singulier. C'est peut-être quand on travaille en France. Moi, j'ai l'habitude parfois de répétition. On fait des lectures, on fait de la psychologie, des choses comme ça. Eux, ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de ça. C'est des behavioristes, quoi. Ils sont.
Et filmer Joaquin Phoenix, ça correspondait au fantasme que vous aviez, parce qu'on l'a vu quand même pas mal.
Ça a l'air d'être votre fantasme, en revanche.
Oui, bah oui.
Moi, moyen, mais non, vous, mais ça a l'air de.
Non, mais c'est un acteur assez passionnant, donc j'imagine.
Il est passionnant.
Bah oui, et comme quand on le dirige, on se dit comment on va le prendre, parce que.
Ils sont tous différents. J'ai adoré travailler avec Jake Gyllenhaal. J'ai adoré travailler. Et je dis pas ça comme ça. C'est à la fois toute cette science, ce savoir qu'ils ont, mais ils sont tous différents. Joaquin, ce qu'il y a de passionnant avec lui, c'est que alors que John C. vraiment il est propriétaire de sa composition, Joaquin, il fait partie de ces acteurs qui ne jouent pas un personnage, qui joue avec le personnage. Et en fait, si vous voyez la filmographie de Joaquin est toujours reconnaissable. Il peut se mettre un tutu de Romain, faire des choses. C'est toujours Joaquin Phoenix. Sauf qu'à certains moments, il s'engouffre dans, il devient le personnage et il va ressortir du personnage. Et ça, à regarder, c'est fascinant. Il y a des acteurs comme ça. Par exemple, Depardieu était comme ça. Je sais pas si vous voyez. Depardieu, quand on le voit, quand il y a, j'en parle au passé, ça fait longtemps. Ouais. Mais il avait cette chose qui était complètement passionnante. C'était de jouer le personnage et de sortir du personnage sans arrêt. Et ça, c'est une chose assez folle à voir. C'est très émouvant.
En revanche, il y a eu un énorme travail d'adaptation sur les deux autres personnages, et notamment cette nouvelle...
Pas les deux frères, hein, donc les deux, non, le détective et le chercheur d'or.
Le chercheur d'or. Ils veulent inventer une nouvelle société. Et là, c'est complètement votre idée à tous les deux.
Mais oui, parce que si vous enlevez, enfin, dans un western classique, les gens vont parler de l'or, voyez, donc on va parler de pognon, bon, et ça va un petit peu limiter le débat. Si cet argent est juste quelque chose qui va être au service d'une utopie, alors là, tout d'un coup, on monte d'un cran, ça devient autre chose, et c'est
un... Il va falloir convaincre les gens de cette utopie.
Ah, exactement.
Mais c'est venu comment, cette idée?
Oui.
Ben, c'est un vieux truc fourriériste, moi, mais on en a parlé parce qu'on est dans l'époque, parce que justement ça vient, on est en 1850 et on est dans ces révolutions européennes qui vont essaimer,
qui vont jusque là-bas,
qui vont essaimer. Il y a eu des communautés, il y a eu des phalanstères aux États-Unis, tous finis terriblement, mais en tout cas c'est Pierre, ton ami, qui nous a fait cette réflexion, Pierre Salvadori, qui nous a dit ça après avoir vu le film. Il a dit c'est l'histoire d'un type qui poursuit un type qui poursuit un type qui poursuit une idée.
Oui, exactement.
Ben voilà, il y a ça. Et donc effectivement, à partir du moment où ça devient une idée, on monte d'un cran dans voilà une certaine beauté. On cherche
du
pognon.
On passe au sort de la cupidité à l'échange et la réflexion.
Et en plus, cette idée de nouvelle société, elle vient d'un immigré entre guillemets.
Ah oui,
The Reese. Ah oui, oui. Mais ça aussi,
c'est important.
C'était une étape très importante dans le casting, parce que c'est de même, John avait la gentillesse de faire référence aussi à Rebecca Root, et c'est vrai que le passage, la découverte de Reese, moi, qui est assez tardive dans l'élaboration du casting, parce qu'on avait plein de gens, de jeunes gens, de jeunes Américains, tout ça.
Ou pas si jeunes que ça, parce que...
Ou pas si jeunes que ça,
dans le bouquin, Warm est un personnage, un vieil allemand.
Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai vu The Night Of, et puis boum, j'ai vu Reese.
The Night Of, c'est une série dans laquelle...
Oui, pardon, c'est vrai. Et j'ai trouvé éblouissant, et tout à coup, j'ai dit, mais ah, tiens, et si c'était lui? Effectivement, quand on l'a mis dans tous ses visages, et le visage de Reese, là, on se dit, tout à coup, ça raconte une autre histoire. Si c'était un blanc, c'était un medicine man, c'était un menteur. Reese, il avait une tête, il venait de Galilée, il prêchait en Galilée, quoi. Vous voyez, c'était un truc, c'est un messie.
Et c'est un grand acteur.
Ah, il est en plus.
Est-ce que vous voulez écouter Patrick De Witte? Parce que je sais pas si, d'abord, est-ce qu'il a vu le film, cet écrivain?
Oui, bien sûr.
Et qu'est-ce qu'il en a dit?
Cet écrivain, je vous en parle.
Oui.
Alors, cet écrivain
a trouvé ça pas mal.
Non, il a trouvé ça bien. La première fois, je crois qu'il est tombé de son siège.
Oui. Il avait un truc, la première fois, il a fait cette remarque-là, il a dit, c'est comme si j'avais écrit du tango et que les gars dansaient la salsa.
Ouais.
Sur les mêmes notes. Mais il l'a revu avec nous à Toronto, je crois qu'il l'a dégagé.
Il l'avait déjà revu, Tom.
Il l'avait déjà revu. Bon, en tout cas, il était dégagé du bouquin et était juste sur le film, et je crois qu'il était très
saisi. Et l'ironie, elle existe.
Il en dit beaucoup de bien.
Elle existe dès le titre, l'ironie, les frères.
Bien sûr, absolument.
Faut trouver, c'est une idée géniale, quoi.
Ça fait, c'est un bon titre pour les Wachowski.
On va écouter quelques propos. Donc, Patrick De Witte, sur les intentions, sur son livre.
J'ai commencé à écrire ce livre en voulant me moquer du genre western, avec l'idée de vandaliser le western, de le bousculer. Et quand j'ai commencé à passer du temps avec les personnages, Ellie et Charlie Sisters, j'ai tellement pris soin d'eux que je me suis attaché. Et j'ai essayé de considérer le projet plus sérieusement. J'ai renoncé assez vite à l'idée de m'en moquer et j'ai juste essayé de raconter une belle histoire.
Vous êtes d'accord avec ces propos? L'idée de se moquer effectivement de ce genre.
Moi, ce que je retiens, c'est qu'il a cessé de se moquer. C'est
pas après.
Parce que vous savez que, enfin, bon, c'est après, peut-être que Tom pourra me relayer là-dessus. Mais quand on se met, disons, dans cet endroit de cinéma, qui serait le western, on essaye de voir un peu où en est le genre. Donc, on a une tendance post-moderne, la Palooza, Open Range, tout ça, ou la tendance cynique et ironique.
Tarantino,
tout ça. Et que c'est vrai qu'aucune n'est satisfaisante. Enfin, pour moi, pour nous, aucune n'était vraiment satisfaisante, il fallait se mettre ailleurs.
Oui, c'est vrai que le western a laissé toujours un truc un peu indéchiffré, à défricher, qui était le sentiment. Western sentimental. Et ça, c'était quand même, les sentiments, c'est pas une pierre qui a été souvent retournée dans les westerns.
Mais le film de genre vous intéresse depuis le début, depuis que vous faites du cinéma. On parle de western, mais on pourrait parler de
polar. Pour le contrer.
C'est intéressant de...
Non, je ne sais pas.
Non, je ne suis pas d'accord avec ça.
Non, je pense qu'il y a une chose, c'est que le genre, c'est démocratique. Vous voyez, il y a un truc qui ça permet... Tout le monde va monter dans le train. Et puis après, on va pouvoir parler d'autre chose.
Oui, mais vous faites des pas de côté.
Oui, mais sans se dire le matin, tiens, on va faire quel pas de côté à l'ouvrir.
Oui, faire comment
oui, c'est pas mal.
C'est
pas mal.
Non, mais c'est un cadre. C'est quand même un cadre, c'est une base.
Oui, mais là, c'est ça. C'est,
ça existe
c'est,
quelque part, quand même.
J'allais dire, c'est un cadre fort, mais c'est un cadre esthétique. Oui. C'est de la forme. C'est le si genre il y a, c'est que, on se met dans une forme qu'on va éclairer d'une autre façon. Mais c'est, je pense que c'est, et c'est une façon aussi, je pense, de jouer entre de l'action, du conflit, tout ça, et des choses plus personnelles, voilà, d'être toujours dans cette espèce de chose-là.
Mais dans l'adaptation du livre, par exemple, il a un gros travail, c'est pour ça que il y a deux couples, c'est de trouver cette tension.
Bien sûr.
Et justement, ouais. Et que ça devienne une course-poursuite.
C'est-à-dire que si on agrège tous ces personnages, c'est évidemment peut-être qu'un seul homme. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
C'est tous les conflits, c'est, avant, je me suis dit, tiens, mais les deux frères, c'est évidemment, bon, c'est un peu symbolique, ce que je veux dire, c'est évidemment un seul personnage qui est juste coupé en deux, mais c'est ça. Et je trouve que bon, en ayant ces deux autres personnages, ben on élargit le spectre, c'est tout. On espère que l'intelligence monte d'un cran et que l'émotion monte d'un cran.
Certains disent que c'est le film le plus personnel, Jacques Audiard.
Je sais pas, c'est pas à moi de le dire, j'en sais rien.
Pas du tout.
Bah, moi, en tant que spectateur, j'ai trouvé
personnel. J'ai l'impression que j'ai pas personnel. Je fais toujours des choses auxquelles je tiens.
Certes.
Donc je peux pas.
Et du coup, vous allez continuer dans cette lignée. Vous êtes
maintenant. Si vous continuez à travailler ensemble.
On va pouvoir.
Oui, j'aimerais t'entendre.
On va pouvoir vous proposer d'autres livres. Vous voulez revenir à quelque chose de plus original entre vous deux, un sujet plus original.
Je sais pas du tout.
Là, on fait un truc, c'est qu'on voyage beaucoup avec ce film.
Le film a été dur et long. C'était une affaire quand même. Mais c'est vrai qu'on en sort un peu.
L'entrevue dont parlait John C. Elle a eu lieu il y a 6 ans.
Il y
a 6 ans, on était à Toronto. Là, c'est le rendez-vous
matin. C'était avant Dipan, vous vous rendez compte?
Oui, c'était. Voilà, moi Jacques a fait Dipan, j'ai fait les cowboys,
on a fait 3-4 enfants.
Ouais.
Il va y avoir une version française du film.
Mais je l'ai faite, oui.
Vous voulez écouter un extrait ou
non.
Pas
Non.
C'est pour ça que je pose la question.
C'est difficile. C'est bien la version française. Mais je suis vraiment, vraiment dans la musique de mes acteurs. Après, je...
On a tellement aimé les versions françaises des westerns. C'est une expérience qu'on a en commun.
Je ne veux pas revenir en arrière. C'est que pour moi, le western, jusqu'à l'âge de 14 ans, je pensais que John Wayne était français.
Oui.
Je suis tombé de haut.
Du Cantal. Mais parlons de la musique quand même. La vraie musique du film, c'est Alexandre Desplat. Et c'est une superbe partition.
Bien sûr.
Vraiment. Vraiment.
Très original.
Il faut le dire. Oui, vraiment.
Ouais, un peu métallique en même temps.
Pas intrusif.
Et avec un truc jazzy que j'aime beaucoup.
Oui, magnifique.
Donc le film Les Frères Sisters sort mercredi prochain, vous restez avec nous, on va écouter The Inspector Clouseau, mais juste avant John C. Reilly qui lit la première phrase du livre.
Assis devant la manoir du Commodore, j'attendais que mon frère Charlie revienne avec des nouvelles de notre affaire.
Little girl wants to look around. The girl just hears a sound. Today is the day of the whistling train. Today is the day of the blowing rain. Last day hanging around. Last day touching. Your hometown.
Laurent, on va évoquer les sorties de la semaine. On va commencer par Dovlatov d'Alexis German Jr., URSS 71, Leningrad, actuel Saint-Pétersbourg. Six jours dans la vie donc de l'auteur Sergueï Dovlatov, alors journaliste pour des magazines, au service de la propagande du régime. Six jours dans l'intimité d'un artiste, portrait de groupe, de ces artistes interdits d'exercer leur véritable talent, écrire, peindre, sculpter, etc., qui se retrouvent entre fête et bistrot. Longue déambulation magnifiquement filmée par German, mais un peu vaine dans la mesure où elle ne nous renseigne pas du tout sur la pensée et les écrits d'Ovlatov. C'est un peu comme si on regardait un biopic sur un musicien sans entendre la musique.
Oui, ou un film sur Balzac sans qu'on sache qu'il a écrit le Père Goriot.
Ah oui, alors,
ça serait un peu, oui, quand même, 2h06, hein, ça dure. Donc sans jamais on nous dise pourquoi et comment. Ce Dovlatov est manifestement un très grand écrivain. En Russie, alors on peut imaginer que sur place, finalement, ils n'ont pas besoin de ça, parce qu'ils savent qu'il est un grand écrivain, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise pourquoi, mais nous, quand même, on serait en appétit de le demander. Voilà, donc c'est un petit peu la curiosité de ce biopic, de ne pas nous renseigner sur ce personnage.
Ceci dit, le grand mérite de ce film, c'est, moi je trouve ailleurs, c'est dans la résonance avec le présent. En 2018, il y a quand même un cinéaste ukrainien qui s'appelle Oleg Sentsov, qui est en grève de la faim depuis 4 mois, et un autre, Serebrennikov, qui est en résidence surveillée, tous les deux pour avoir critiqué le régime. Qu'est-ce qu'on peut faire, Jacques Audiard? Je sais que la SRF se bouge pas mal.
J'ai l'impression qu'on est, comme on dit, qu'on est mis dans le coin, qu'on sait plus, je ne sais pas ce qui sert. Vous savez, Poutine, il s'est fait élire sur un programme simple, un programme dur. J'irai les chercher jusqu'au fond des chiottes. Voilà. Donc, l'annexion de la Crimée. Quelle est l'opinion du peuple, j'allais dire soviétique, oui, chez notre époque. Et l'opinion du peuple russe là-dessus, je la connais pas. Et je trouve que maintenant, c'est vrai qu'il y a quelque chose de troublant. Est-ce qu'on passe, nous, pour les espèces de pitres occidentaux qui s'énervent ou... Et que faire, quoi? Est-ce qu'ils vont continuer? Alors, au Champ de Mars, il y a quelque chose. L'Action Christine, il y a quelque chose.
Ouais. Thunder Road, c'est le premier film de l'américain texan Jim Cummings qu'il a écrit, interprété, réalisé, monté, produit, homme orchestre. Il incarne Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant bien que mal d'élever sa fille. Le film s'ouvre sur les funérailles de sa mère, une scène plan séquence de 10 minutes pendant laquelle, entre rire nerveux et larmes sincères, il tente pathétiquement de lui rendre hommage. La scène est interminable et irritante. C'est voulu, certes, jusqu'à un certain point, difficile ensuite d'entrer en compassion avec ce personnage comique et pathétique, largué et incapable de gérer sa position de père et son job de policier, Laurent.
Mais oui, c'est-à-dire que Cummings pense avoir inventé la douche froide et la douche chaude, les larmes puis le rire, le grotesque puis l'émotion. Je pense que ça a déjà été fait de ce point de vue-là. Et finalement, cette espèce de flic neuneux, on se demande comment la police peut l'avoir inclus dans ses effectifs. Mais enfin, cette histoire de flic neuneux ne décolle jamais. Et d'autant plus que, alors là, vraiment, c'est clair, les femmes en prennent plein leur grade. Il a une fille qui ne l'aime pas, une sœur qui ne l'aime pas, une ex remariée qui n'arrête pas de lui faire des craques. Enfin voilà. Donc tout ça est encensé par beaucoup de nos confrères, et j'avoue que c'est un petit peu étonnant.
Oh, moi, il y a une scène qui m'a quand même assez touché, c'est la confession sur le parking et au cours de laquelle on rencontre enfin le personnage, peut-être un peu tard. Il faut quand même saluer cette proposition radicale de cinéma indépendant dans un paysage un peu gnangnan du cinéma indépendant, mais bon.
Bon, allez.
Le pape François, un homme de parole, c'est un film de commande du Vatican pour Wim Wenders, sur le premier pape originaire d'Amérique du Sud et le premier chef de l'Église à avoir choisi le prénom de François d'Assise, ce saint qui avait voué sa vie aux pauvres, la pauvreté qui semble être la priorité du pape, notamment filmée par Wenders en train d'embrasser les pieds des nécessiteux dans plusieurs coins du monde, prisons, quartiers. On oubliera la reconstitution un peu lourde, façon muet, de François d'Assise, alors que les entretiens face caméra avec François restent impressionnants. On n'a jamais vu le pape filmé de si près. Reste que le timing de sortie tombe très mal avec les déclarations récentes du pape justement sur les homosexuels et bien sûr les nombreuses affaires de pédophilie dans le monde.
Moi, je serais plus sévère encore. Qu'est-ce qui lui a pris à Wenders? Un film coproduit avec le service de communication du Vatican? Enfin, c'est comme si Tavernier faisait le portrait de Macron en liaison avec Daniel Castaner et Benjamin Griveaux quand même. C'est incroyable, ce film. Franchement, il n'y a aucun contrepoint, aucune vision autre que celle de ce pape qui parle effectivement énormément. Il ne fait que ça d'ailleurs, parce qu'il n'a aucun pouvoir. Donc à force de parler, on est saoulé de paroles. Même Télérama n'a pas aimé ce film extrêmement catholique.
Ça m'empêche pas de continuer à être impressionné par Wenders, par sa démarche. Il croit vraiment ce qu'il filme, ce qu'il voit, ce qu'il sent, et ça s'entend quand on le rencontre. C'est un croyant du cinéma. Il tente toutes les formes, la fiction, le doc, la 3D en Europe, aux États-Unis. Et moi, vraiment, cette confiance aux images, c'est un sacré parcours avec quelques, effectivement, faux pas comme celui-là.
Oui, c'est un gros faux pas, là.
Oko et les fantômes de Kitaro Kosaka, ex-animateur au fameux studio Ghibli avec Miyazaki, donc son disciple depuis 30 ans. Oko est une petite orpheline recueillie par sa grand-mère dans son auberge familiale remplie de fantômes. Alors, en quoi son travail diffère-t-il de celui de Miyazaki?
Ben, c'est ça mon souci. Voilà. Ça a été, ça, oui, c'est ça mon souci, je l'avoue. C'est une belle histoire, hein, avec à l'origine une petite fille qui se confronte à la tradition, à la famille, et donc du coup aux fantômes. On a un peu le voyage de Chihiro en tête, là, clairement. Et ben, la comparaison, et là, c'est plutôt en défaveur de Kosaka en permanence, y compris même, je trouve, en termes d'image et de beauté des images. On n'arrive pas à adhérer complètement à cette démarche un peu hésitante. C'est vraiment une petite déception en matière d'animation japonaise qu'on avait découverte à Annecy cette année.
Décidément. Ma fille, premier film de l'actrice Nedra Ayadi, Hakim et Latifah ont fui la guerre civile algérienne au début des années 90. Ils vivent depuis dans le Jura avec leurs deux filles. L'une des deux est partie à Paris, ne donne plus de ses nouvelles. Le père va aller la rechercher. Le père, c'est Roche Dizem. Et le film est adapté du roman de Bernard Clavel, Le Voyage du Père.
Mais comment est-ce qu'on peut, en 2018...
Oh non !
Mais si, comment est-ce qu'on peut aller chercher un roman de Bernard Clavel en 2018? Alors, Bernard Clavel, moi, j'ai adoré, hein, quand j'étais adolescent, bon, la littérature populaire, populiste des années 70. Enfin, franchement, c'est aberrant, parce que du coup, il y a une modernisation, ça se passe maintenant. Or, le personnage principal, qui est joué par Roche Dizem, immigré de la deuxième génération, ouvrier, il connaît rien à Internet, il sait pas servir presque d'un téléphone portable. C'est absolument pas crédible du début jusqu'à la fin. Et tout ça est dans des clichés qui étaient peut-être possibles dans les années 70-80 sous la plume de Bernard Clavel. Mais là, en 2018, c'est impossible de faire un film comme ça.
Reste le temps des forêts, un doc signé François-Xavier Drouet. Dit une femme au début, on en a vu planter des sapins dans les prés partout et les matins sont devenus des soirs. J'adore cette phrase, très poétique, qui ouvre ce doc poétique et alarmiste. Le reste du film dresse un constat assez terrible sur l'avenir de nos forêts, mécanisation, monoculture, engrais et pesticides. Qu'est-ce qu'il fait au cinéma? Il devrait être à une heure de grande écoute à la télé.
Oui, sauf que dans les salles, il va provoquer des débats. Et ça, c'est bien de dire que les salles de cinéma sont en France le lieu aussi des débats, de la rencontre, de la confrontation, de la culture. Et ça, c'est très très bien. En ce moment, il faut le redire en permanence.
Mais sinon, il y a deux bons films quand même. Hein, cette semaine, Mademoiselle de Jonquière et puis Première Année.
Donc, on a déjà parlé la semaine dernière. Voilà. On vous les recommande chaudement.
Il nous reste 1 minute 30 pour aborder deux festivals. Les 30 ans, le festival de Montélimar.
Oui, de l'écrit à l'écran avec Salvadori Tavernier. En majesté, si je puis dire, pour leur travail sur l'adaptation. Et puis un hommage à Jean Rochefort. C'est à Montélimar la semaine prochaine.
Et il se rend compte du Forum des Images.
Et on ne le dira jamais assez, il faut aller à Paris au Forum des Images. C'est une institution très importante qui est un petit peu menacée. Hélas, on ne sait pas pourquoi.
Vite les cadeaux.
D'abord, le guide de Paris chez Fan Trippers pour tous les deux.
C'est
voilà.
Super, ça, ouais.
Et
c'est
vous bien verrez, Jacques Audière, vous y êtes dedans parce qu'il y a les lieux cultes du cinéma. Et on sait désormais où a été tourné De battre mon cœur s'est arrêté dans le 13e arrondissement. Et puis un autre cadeau qui vient de sortir, on est très très content d'avoir trouvé ça.
Ouais,
c'est un inédit de James Baldwin, Le diable trouve affaire.
Ah bah voilà.
Ah bah voilà.
Littérature.
Bon, la littérature sur le cinéma. Ce qu'il a écrit sur le cinéma, c'est inédit en France, c'est traduit par Pauline Soula, c'est aux éditions Capricci et c'est un petit régal d'intelligence. Il y a des pages, il y a des lignes sur Devine qui vient dîner ce soir avec Cinématique qui sont extraordinaires.
Voilà, c'est fini.
Merci beaucoup.
Merci à tous les deux.
Merci de Mamie de Gain, merci Jacques Audiard, les frères Sisters sort mercredi prochain. Je pense qu'on va commencer à le savoir et à l'entendre
parce
qu'on aime vraiment énormément ce film. On va conclure avec le générique lu par John Cirelli.
S'il vous plaît.
This program was inspired by cinema. It was filmed in sound. It's radio. The title music was written by Sporto Contes. The songs have been chosen by Muriel Perez. Rebecca Denant prepared the show. Xavier Pestuja directed the show. Christine Masson and Laurent Delmas produced and presented. And I, John C. Reilly, was in it with Jacques Audiard and Thomas Bidigain.